Seigneur, que ton esprit fasse son œuvre en nous. Nous ne voulons pas nous reposer sur un humain ou l'autre, sur une structure, une institution ou l'autre, mais nous voulons nous reposer sur les Écritures et sur l'œuvre puissante de ton esprit lorsque ta parole est ouverte. Viens nous parler, nous rencontrer ce matin. Viens nous réjouir aussi. Amen. Amen. Nous allons en fait lire deux textes dans les évangiles ce matin. Un premier texte dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu au chapitre 9. Matthieu chapitre 9, les versets 1 à 8. Voici ce qui est écrit. Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème !» Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé, de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. La deuxième lecture dans l'évangile selon Jean, cette fois-ci le quatrième évangile, au chapitre 5. Et les versets 16 à 27, Jean chapitre 5, versets 16 à 27. Versets 17 à 27. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Amen. lequel nous vivons, il y a des personnes qui ont des compétences spécifiques que personne n'a. Il y a des personnes qui ont des compétences spéciales que seuls eux possèdent. Par exemple, dans le monde administratif, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle une compétence de signature. Dans une administration, par exemple, c'est la personne qui est compétente pour signer tel type de document. Et c'est uniquement quand cette personne signe le document qu'il a une valeur. On connaît tous ça dans notre vie, où il faut absolument aller à la commune ou aller là-bas ou chez le directeur, le responsable, et c'est lui qui signe. C'est lui qui signe et sa signature a de la valeur parce que lui seul peut signer. C'est une signature qui donne un pouvoir particulier. Par exemple, il y a dans les entreprises des personnes qui ont le pouvoir de signer des contrats au nom de l'entreprise. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les employés qui peuvent signer des contrats au nom de l'entreprise. Il y a des gens qui ont ce pouvoir, qui ont cette compétence spécifique de signer et d'engager l'entreprise. Il y a d'autres personnes qui ont une compétence de signature pour approuver un acte, approuver des congés, approuver telle chose. Il y a toujours une personne spécifique pour chaque chose. Dans le monde plus juridique, on sait par exemple qu'il y a certains actes qui doivent être passés devant un notaire. Et il y a certains actes, c'est obligatoire que le notaire intervienne. Pour avoir un acte authentique de vente, il faut que le notaire soit là. C'est la compétence spécifique du notaire. Personne d'autre ne peut le faire après lui, à part lui. C'est lui qui est compétent pour ça. C'est lui qui a la compétence spécifique de poser cet acte-là. Dans le monde judiciaire, certains juges, certains tribunaux ont des pouvoirs qu'aucun autre organe n'a. C'est leur pouvoir spécifique. Le pouvoir de saisir, le pouvoir de priver de liberté, le pouvoir de casser un arrêt, c'est spécifique à certaines personnes. Dans le monde politique, certains personnages politiques ont des compétences spécifiques, des compétences que eux seuls ont. Par exemple, en France, le président de la République a des compétences propres, c'est-à-dire des compétences qui n'appartiennent qu'à lui seul, et personne d'autre ne les a. Par exemple, la compétence de nommer le Premier ministre, la compétence de dissoudre l'Assemblée nationale ou la compétence de recourir à un référendum. Ce sont des pouvoirs propres du président de la République. Mais aussi, en France toujours, le président de la République est le chef des armées, on l'a vu encore cette semaine, et en cela, il est le seul et unique détenteur du feu nucléaire. Donc il est la personne spécifique qui peut estimer que le feu nucléaire doit être engagé. On connaît même aux États-Unis, tout le monde connaît ça, même si souvent c'est un peu, on en rajoute un peu, mais on connaît par exemple la mallette du président des États-Unis, cette fameuse mallette dont on dit qu'elle contient les codes. Mais en tout cas, on sait que dans ce monde, tout le monde n'a pas tous les pouvoirs et que certains ont des pouvoirs spécifiques, des pouvoirs exclusifs. Et dans le monde spirituel, il existe aussi des compétences exclusives, des pouvoirs exclusifs que certains possèdent. Dans les textes que nous avons lus ce matin, les deux textes des évangiles, il nous est parlé des pouvoirs exclusifs de Jésus. Des pouvoirs que Jésus seul a et que aucune autorité humaine, aucune institution humaine ne possède. Ce sont les pouvoirs exclusifs ou les pouvoirs spéciaux de Jésus. Dans l'univers entier, dans le cosmos entier, seul Jésus possède ces pouvoirs. Premièrement, le texte de Matthieu nous parle d'un pouvoir spécial ou du pouvoir spécial qui est en Jésus, le pouvoir de pardonner les péchés. Le pouvoir de pardonner les péchés. Dans l'évangile, il nous est rapporté ce texte où les Juifs s'étonnent de ce que Jésus proclame le pardon des péchés à un humain. Ils ne comprennent pas comment Jésus peut s'arroger le droit de proclamer à quelqu'un le pardon de ses péchés. Ils ne comprennent pas parce qu'ils savent bien que c'est une compétence qui n'appartient qu'à Dieu lui-même. Ils sont bien conscients que c'est une compétence qui est hors du champ des humains. Nous savons que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a des hommes de Dieu qui ont ressuscité des morts. qui ont guéri des malades, qui ont fait ouvrir la mer. Toutes ces choses-là, ce sont des compétences que des humains peuvent avoir. Des humains peuvent ressusciter des morts. Des humains peuvent ouvrir la mer. Des humains peuvent faire revenir des morts. Mais seul Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus s'approche de cet homme et les hommes et les femmes qui sont autour d'eux sont choqués parce que Jésus ne prie pas pour le pardon des péchés de cet homme. Il ne dit pas « Seigneur, je t'en supplie que ses péchés lui soient pardonnés ». Il ne dit pas à cet homme « Je te souhaite que tes péchés te soient pardonnés ». Jésus lui proclame le pardon des péchés. « Tes péchés te sont pardonnés ». En fait, le problème du péché, c'est le problème le plus fondamental, le plus problématique de toute l'histoire de l'humanité. C'est le problème qui nous ferme les portes au royaume de Dieu. C'est le problème qui bloque notre relation avec Dieu. C'est le problème qui nous tient dans l'esclavage. Et en pardonnant les péchés, en proclamant le pardon des péchés, Jésus peut mettre fin à ce problème essentiel qui bloque l'humanité tout entière. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Dans cette parole qu'il adresse à cet homme, il y a tellement de choses qui lui sont dites. Premièrement, quand Jésus lui dit que ses péchés lui sont pardonnés, Jésus met fin à la culpabilité qui minait la vie de cet homme. Même si le texte ne parle pas de la culpabilité de cet homme, le texte parle surtout de son état, et c'était un paralytique. Le texte ne parle pas de son état spirituel, mais si Jésus lui proclame le pardon de ses péchés, on peut penser que c'est parce qu'il y a à l'origine de son état une faute, une transgression. Quelque chose qui a conduit à ce qu'il puisse être puni de la sorte. Alors ça ne veut pas dire que toutes les maladies sont dues au péché, mais dans son cas, à lui en particulier, c'était dû à un péché, raison pour laquelle Jésus lui annonce le pardon des péchés. Mais si Jésus lui annonce le pardon des péchés, on peut imaginer que quelque part dans sa tête, cet homme avait une culpabilité qui le minait. Il y avait certainement quelque chose qui minait son existence et qui l'empêchait d'avancer. Jésus lui proclame le pardon des péchés et il le fait sortir du poids de la culpabilité de son péché. En lui proclamant le pardon des péchés, Jésus lui annonce que sa relation avec Dieu peut être rétablie. La relation la plus essentielle, la plus importante de toute l'humanité, la relation qui peut être la plus importante pour nous, il lui annonce que cette relation peut être rétablie. Le lien le plus essentiel de l'homme, la relation entre l'homme et Dieu peut être rétablie. Jésus a le pouvoir d'ouvrir le ciel. Seul lui a le pouvoir d'ouvrir le ciel. Les hommes sur terre, les présidents, peuvent avoir des grands dos, ils peuvent se trouver importants. Ils n'ont pas le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus peut pardonner les péchés, il peut ouvrir le ciel. En proclamant le pardon des péchés, Jésus le libère aussi des conséquences de son péché. Dans ce cas précis, il est clair que le pardon des péchés, ça a impliqué aussi la fin de son infirmité. Parce que Jésus lui annonçait le pardon des péchés, il pouvait savoir qu'il était libéré de la paralysie qui était avec lui, qui était en lui. Cette paralysie qui l'empêchait d'avancer. Lorsque Jésus lui annonce le pardon des péchés, il retrouve son dynamisme. Il retrouve sa vitalité. Il retrouve sa capacité à bouger. Il retrouve sa capacité à avancer. Il retrouve sa capacité à faire des projets, à se projeter dans l'avenir. Parce que Jésus lui a proclamé le pardon des péchés. En cela, en Jésus seul, les hommes peuvent recevoir l'affranchissement personnel et complet de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la mort, de l'esclavage de l'enfer, et ils peuvent recevoir aussi la liberté de vivre selon la justice de Dieu. Le texte de l'Écriture dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La mort de Jésus nous procure la paix avec Dieu, mais aussi elle guérit nos âmes de cette maladie, de cette lèpre qu'est le péché, pour que nous puissions être libérés. S'il y a bien une chose qui mine les relations entre l'homme et Dieu, c'est le péché. Et Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Et ce pouvoir, il l'a exercé avant même que son sang soit versé. Le pouvoir que nos péchés soient pardonnés. Il est dit, Dieu l'a élevé, en parlant de Jésus, par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Jésus a été élevé pour donner le pardon des péchés. Il est ce médiateur entre Dieu et les hommes, le médiateur de cette nouvelle alliance, notre avocat auprès du Père, qui peut nous obtenir le pardon des péchés, un pouvoir exclusif de Jésus, ce que l'on ne peut trouver qu'en Jésus seul, le pardon des péchés. Deuxièmement, le texte de Jean nous donne un autre pouvoir exclusif de Jésus, un pouvoir que seul Jésus a, le pouvoir de donner la vie éternelle, le pouvoir de transmettre la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean, dans la majorité des expressions, à chaque fois qu'il est dit le mot « vie », enfin en tout cas pas à chaque fois, mais en tout cas la majorité du temps dans l'évangile de Jean, ça correspond au mot grec « zoé ». Et zoé, dans l'évangile de Jean, la plupart du temps correspond à la vie, mais la vie dans son sens le plus fort, le plus grand, le plus puissant, c'est le sens de la vie éternelle. Jésus a beaucoup utilisé cette expression, rentrer dans la vie, entrer dans la vie. Dans l'évangile de Jean, c'est la vie éternelle. Zoé, c'est la vie, en fait, Zoé, c'est la vie de Dieu, la vie éternelle de Dieu, la substance de vie de Dieu qu'il donne aux humains. Donc quand Jésus dit qu'il donne la vie, c'est-à-dire qu'il est celui qui peut transmettre cette substance éternelle de vie à un être humain pour qu'il possède justement cette vie de Dieu, cette vie éternelle de Dieu. C'est la vie éternelle de Dieu qui nous est donnée. On pourrait dire que c'est la plénitude de vie de Dieu qui nous est donnée. Cette vie que nous recevons à la nouvelle naissance, cette vie divine en fait, la vie divine qui vient s'implanter en nous à la nouvelle naissance, et c'est cette vie qui est déjà en nous et qui nous conduira dans la vie éternelle. Jésus est le seul qui a le pouvoir de donner la vie éternelle. C'est celui qui peut transmettre la vie éternelle. Il est le canal, la transmission parfaite de la vie éternelle. Les humains peuvent décider de donner la vie à un être humain, mais ils ne peuvent pas décider de donner la vie éternelle. Ça, c'est une compétence exclusive de Jésus. Et cette vie, c'est le don de Dieu en nous. En Jésus-Christ, Dieu nous donne, il nous transmet cette vie divine, cette vie Zoé, cette vie éternelle. C'est cette vie de résurrection qui est déjà en nous et qui s'exprimera au moment de la résurrection. Nous possédons par Jésus la vie éternelle. Et cette vie éternelle, en fait, la vie éternelle dans la Bible, c'est un concept extraordinaire. Parce qu'en fait, nous, on croit toujours que c'est du futur. Mais en fait, pour nous, la vie éternelle, c'est quelque chose qui est du déjà présent. Nous possédons la vie éternelle et en même temps, cette vie éternelle que nous avons, elle est déjà en train de nous conduire dans cette vie de résurrection que nous aurons. Jésus a dit dans la prière sacerdotale, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc la vie éternelle commence lorsque nous rencontrons Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous le connaissons, nous rencontrons la vie éternelle en lui, nous recevons cette vie éternelle sur terre déjà, en connaissant le Père, en connaissant le Fils, et cette vie éternelle nous conduit dans, justement, la vie éternelle. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Il est le transmetteur parfait de la vie éternelle. La Bible nous dit que Jésus a reçu le pouvoir de ressusciter les morts. Il a le pouvoir de donner la vie. Et le texte dit en fait, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Donc en fait, la vie, c'est quelque chose qui est exclusif au Père, mais que le Père a donné au Fils. Et le Fils a le pouvoir de donner la vie à qui il veut, de transmettre la vie à qui il veut, de transmettre la vie éternelle. Comme le Père ressuscite des morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Fils donne la vie à qui il veut. D'ailleurs, la Bible appelle Jésus le prince de la vie. La Bible appelle Jésus le prince de la vie. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, et nous en sommes témoins. On peut comprendre dans cette expression de prince, cette expression prince signifie celui qui conduit à la vie. Jésus est celui qui conduit à la vie, il est l'auteur de la vie, le prince de la vie, celui qui donne la vie éternelle. Il est celui qui donne la vie, celui qui conduit dans la vie, il est celui qui est la vie. Jésus est la vie éternelle. Et il est ce prince de la vie parce qu'il ne conduit pas seulement une personne dans la vie, mais il conduit une multitude de personnes. Le prince de la vie, le prince de la vie éternelle, celui qui est la vie et qui peut la donner à quiconque croit. Le voleur ne vient que pour dérober, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Cette vie nous est procurée par le Saint-Esprit. Elle habite en nous et elle se développe en nous et s'épanouira jusque dans l'éternité. Nous avons rencontré le prince de la vie, celui qui donne la vie éternelle, celui qui partage, celui qui transmet. On pourrait dire que Jésus est celui qui peut nous faire une perfusion de vie éternelle. C'est le seul, celui qui peut donner la vie éternelle. Troisième pouvoir spécifique de Jésus, c'est le pouvoir de juger les vivants et les morts. Un autre pouvoir qu'a reçu Jésus, c'est le pouvoir de juger les vivants et les morts. Il est dit que Jésus a reçu le pouvoir de juger les vivants et les morts. La Bible nous enseigne que Dieu est appelé le juge de toute la terre. Dieu est le juge de toute la terre. Mais il a délégué à Jésus-Christ le pouvoir de juger les vivants et les morts. Dieu a délégué à Jésus le pouvoir de juger les vivants et les morts. Quand Jésus a accepté la mort sur la croix, quand il a vécu cette humiliation, il a été ressuscité, il est venu s'asseoir à la droite de Dieu le Père, et Dieu lui a accordé en récompense à ce don qu'il a fait de lui-même, le pouvoir de juger les vivants et les morts. Dans le texte que nous avons lu au verset 22, Jean 5, 22, il est dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Dans sa souveraineté, Dieu a donné à son Fils ce pouvoir de juger les vivants et les morts. Dans le même passage, on continue en disant « Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. » Ainsi, Dieu a établi Jésus et il lui a donné le pouvoir exclusif d'être le juge des vivants et des morts. Acte 10, 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Il a reçu ce pouvoir, cette autorité exclusive de juger les vivants et les morts. L'apôtre Paul disait à Timothée, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Jésus-Christ jugera les vivants et les morts. Lors de son apparition, lors de sa parousie, il jugera les vivants et les morts. Il est celui, nous dit la Bible, qui a été désigné pour juger le monde selon la justice. » Et le livre de Daniel nous donne, vous lirez chez vous dans Daniel chapitre 7, Daniel nous donne la description de comment Jésus, le Fils de l'homme, s'approche devant l'Ancien des Jours et il reçoit la domination, la souveraineté pour juger les vivants et les morts. Jésus est le juste juge. Jésus-Christ jugera les croyants. Il jugera les croyants lors du tribunal de Christ. Les croyants, c'est nous. Jésus-Christ nous jugera au tribunal de Christ. Il nous a dit que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et il nous jugera par rapport à nos œuvres, par rapport à ce que nous aurons produit pendant notre vie. Il distribuera les récompenses pour nos œuvres. Ce ne sera pas un jugement pour le péché, mais il distribuera les récompenses que nous méritons par rapport à ce que nous aurons produit pendant notre vie. L'Apocalypse nous dit que Jésus-Christ jugera la bête, le faux prophète et leurs armées. L'Apocalypse nous dit que Jésus jugera Satan. Jésus jugera les nations de la terre pendant le millénium. Jésus jugera les morts qui ne se sont pas repentis lors du jugement du grand trône blanc. Jésus jugera les méchants et les justes. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Jésus a le pouvoir de juger les vivants et les morts. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Le Père a remis à Jésus toutes choses et il a remis le pouvoir de juger les vivants et les morts. Quand on voit ces pouvoirs de Jésus, ces pouvoirs exclusifs qu'il a reçus, le pouvoir de pardonner les péchés, le pouvoir de donner la vie éternelle, le pouvoir de juger les vivants et les morts, on n'a pas de mal à comprendre pourquoi la Bible parle de lui avec ses expressions grandioses. On n'a pas de mal à comprendre que celui qui est établi par Dieu comme étant le médiateur entre Dieu et les hommes, comme étant le prince de la vie, comme étant le juge de toutes choses, on n'a pas de mal à comprendre que la Bible l'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Jésus est appelé le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il nous est dit que Jésus est assis à la droite de Dieu et que les anges, les autorités et les puissances lui sont soumises. Toutes choses lui sont soumises. Il nous est dit que Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. La Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et qu'il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible nous dit de Jésus qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Il nous est dit qu'il y a un seul Dieu, le Père, et qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il nous est dit que Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. N'avons pas de mal à comprendre, lorsque nous regardons ces réalités, qu'il nous est dit de Jésus, ou qu'il dit de lui-même, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors, conscient de toutes ces réalités si puissantes et si glorieuses, adorons et célébrons le Christ, ressuscité, exalté, glorifié. Proclamons qu'il est le roi des rois, qu'il est le seigneur des seigneurs. Conscient de toutes ces réalités, soyons affermis, soyons tous affermis dans la conviction que Jésus est vraiment l'espoir du monde. Soyons affermis dans la conviction que Jésus est celui dont nos contemporains ont besoin. Nos contemporains ont besoin de venir à Jésus-Christ en se repentant de leurs péchés et en croyant pour recevoir le pardon de Dieu et pour recevoir la vie éternelle. Lorsque l'on lit les Écritures, lorsqu'on lit la Bible, on se dit « mais c'est tellement clair, c'est tellement audacieux, mais c'est tellement effrayant. Il est celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Il est celui qui peut donner la vie éternelle. Soyons affermis dans cette conviction. Notre monde a besoin de notre Jésus. Ce seul, cet exclusif qui peut pardonner, c'est de lui dont notre monde a besoin. Mais aussi, conscient de ces réalités, n'ayons pas peur et n'ayons pas honte d'appartenir à Jésus. Peut-être qu'aujourd'hui, Jésus est moqué, renié, repoussé. Peut-être qu'aujourd'hui, on se moque de lui. Peut-être qu'on fait des films où on rit de lui. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on passe devant une église, on rigole. Mais un jour, son autorité et sa puissance seront clairement manifestées, puissamment. Un jour, sa royauté sera la réalité la plus évidente de l'univers. Notre monde est un monde, comme on l'a dit il y a deux semaines, c'est un monde de, c'est un monde d'illusions. Vous savez que notre monde, c'est un film en fait. Nous vivons dans un film, c'est une illusion. Mais un jour, la vraie réalité spirituelle qui domine toutes les réalités apparaîtra aux yeux de tous. Et celui qui a été méprisé sera révélé comme étant le juge des vivants et des morts. Comme étant celui, c'est comme si il y a dans les coulisses un décor qui se prépare. Il y a dans les coulisses une réalité qui se prépare à entrer en scène. Et ce jour-là, toute langue confessera qu'il est Seigneur, qu'il est Sauveur et qu'il est celui qui a été établi par Dieu pour juger les vivants et les morts. N'ayons donc pas honte de lui aujourd'hui. N'ayons pas honte de lui appartenir. N'ayons pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est le chemin, c'est le moyen de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'apôtre Paul disait à Timothée qu'il ne devait pas avoir honte de lui, qu'il ne devait pas avoir honte de l'Évangile. Jésus lui-même nous avertissait de ne pas avoir honte de lui devant cette génération pécheresse et adultère, mais d'être fort dans ses convictions, que peut-être aujourd'hui ça ne se voit pas, peut-être qu'aujourd'hui c'est moqué, mais notre Seigneur, celui qui habite en nous, il est vraiment celui qui donne la vie éternelle. L'apôtre Paul, à cause de ces réalités tellement grandes, l'apôtre Paul avait tellement compris ces réalités puissantes et grandes de ce que Jésus est, qu'il disait à Timothée qu'il ne devait pas avoir honte de rendre témoignage au Seigneur, mais il disait même à Timothée, n'aie pas peur de souffrir pour cet évangile. En fait, l'apôtre Paul considérait que l'évangile c'était une réalité tellement glorieuse, tellement grande, tellement magnifique, qu'il estimait que nous ne devons pas avoir honte et nous ne devons pas avoir peur de souffrir pour l'Évangile. Dans 2 Timothée, il explique qu'il accepte certaines souffrances à cause de cet Évangile. À cause de cet Évangile, je suis en prison. À cause de l'Évangile, parce que c'est le moyen de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'ayons pas peur non plus d'accomplir la mission de Christ en annonçant l'Évangile, en faisant des disciples, en partageant son enseignement. Parce qu'il nous a promis qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde et parce qu'il nous a donné la puissance de son esprit pour accomplir sa volonté. Là, le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis tout sous ses pieds. Et le Christ domine toutes choses. Il l'a donné pour chef à l'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Nous pouvons honorer Jésus pour ce qu'il est. Nous pouvons nous réjouir de ce qu'il est et nous pouvons ne pas avoir honte de lui. Nous pouvons ne pas être craintif en parlant de lui. Nous pouvons ne pas nous sentir des petits rien du tout, mais être fort de cette bonne nouvelle, fort de ce grand Seigneur qui est le nôtre. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.